On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Il mélange les pois chiches hachés avec les pois chiches entiers.
Exactement. Alors d'un côté, on a la purée de houmous, qui est le houmous qu'on connaît tous. Et dans cette purée de houmous, il va incorporer des grains de pois chiches entiers. Donc il va y avoir cette différence de texture dans la bouche.
Le pois chiche, dans l'Antiquité, aurait des vertus thérapeutiques, toniques et aphrodisiaques.
Un comte hongrois ou tchécoslovaque, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. Il prenait des pois chiches al dente. Alors, si en plus vous les faites germer, c'est la totale. Vous avez les phytohormones qui sont là-dedans. Phytotesto pour les messieurs, phytoestrogène, progestérone pour les mesdames.
Ouh là là, la libido dont on va déguster va exploser. Une émission sur le pois chiche, chiche ou pas chiche. Eh bien chiche, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission gastronomique de France Inter. Après un intense lobbying fomenté par notre chroniqueuse Elvira Masson, on a enfin donné une place au pois chiche dans le menu dont on va déguster. Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous, je plaide coupable.
Mais d'où vient donc cette pois chichophilie?
Alors je sais pas d'où elle vient, mais ce qui est certain, c'est que je suis houmous maniaque, falafel maniaque, je peux pas l'expliquer. Il n'y a pourtant pas d'origine géographique particulière qui le justifierait. Mais
en tout cas, vous nous avez apporté une superbe recette d'houmous. Enfin, on l'a pas encore goûté.
Je sais pas si elle est superbe, mais en tout cas, c'est la base de mon alimentation.
Ben, on va le vérifier tout à l'heure ensemble. Et on va même faire des miracles avec son jus de cuisson. Oui, le jus de cuisson des pois chiches.
Riche en protéines et qui remplace le blanc d'œuf.
C'est cela, on va voir ça. Cette légumineuse a le vent en poupe, on va le voir. Sa culture reprend racine un peu partout en France. Les grands chefs le recuisinent, le houmous se fait mousser. Deux invités de poids pour parler pois chiches. Pierre-Brice Lebrun, bonjour.
Bonjour.
Écrivain épicurieux, ça vous va ou pas?
Non, ouais, très bien. Bon. Épicurieux, j'aime bien.
Voilà, parce que vous vous intéressez dans vos nombreux ouvrages à des sujets aussi variés que la boulette, la frite. Vous êtes venu d'ailleurs nous parler de ces sujets fort intéressants. Le camembert aussi, vous
oui,
avez un nouvel ouvrage sur le camembert dont on dira un mot. Vous avez signé en 2011, ça a fait quelques années mais quand même, Petit traité du pois chiche aux éditions Le Sureau, un formidable petit livre. Également avec nous, Jérôme Gussemas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur de pois chiches à Viviers-les-Lavaux.
Viviers-les-Lavaux, dans le Tarn.
Viviers-les-Lavaux, absolument. Voilà, à 30 km de Toulouse, on est à la frontière entre la Haute-Garonne et le Tarn.
C'est ça, on est sur l'épicentre entre Toulouse et Albicastre.
C'est ça.
Voilà.
Producteur de pois chiches, vous connaissez tout sur cette plante, vous allez nous en parler. Et puis on ira également faire un tour en Israël, à Yafo, c'est le nom hébreu pour Jaffa, un quartier où les gourmets vont en pèlerinage pour manger, figurez-vous, l'un des meilleurs houmous au monde, un reportage signé de notre globe croqueuse Lénora Krief. Il vient régulièrement asséner son coup de lame dans l'émission, c'est Arnaud Daguin, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, coup de lame aujourd'hui?
Coup de ciseau de couture.
Coup de ciseau de couture, vous allez comprendre. En régie, Laurent Thomas, Valentin Azan, Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale. Toutes nos infos et les recettes de notre invité sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Juste avant de parler pois chiche, mon adresse de la semaine. Imaginez, en plein marais, un splendide bistrot à vin dont la devanture n'a pas bougé d'une oreille depuis 1905. Il y a encore les lettres dorées sous verre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le chanteur Jim Morrison en avait fait sa cave à vin de référence à la fin des années 60.
C'est le vin des Pyrénées.
Ah bah bravo,
rue Beautreilly. Bah Jim Morrison habitait rue Beautreilly. C'était sa cantine.
Absolument.
Il est d'ailleurs mort dans l'immeuble où il vivait.
C'est
Paris.
Ça, dans le Marais. Mmh. Et au vin des Pyrénées, bah, c'était un bistrot qu'on a beaucoup connu.
Un bistrot assez mythique, ouais.
Avec des gérances un peu irrégulières sur le plan de la qualité. Mais là, la bonne nouvelle, figurez-vous, c'est que ça a été repris par un tout jeune homme qui s'appelle Florent Cadieux, c'est un comédien de cinéma, alors qui s'est quand même frotté à Bertolucci, il a joué dans Innocent the Dreamers de Bertolucci en 2003. Donc Florent Cadieux, belle gueule, une voix qui en plus sait vous parler, il a repris ce bistrot mythique avec ses vieux casiers à bouteilles, ses banquettes en bois patiné, son vieux carrelage en mosaïque, un carrelage vraiment superbe au vin des Pyrénées. Il s'est entouré d'un jeune chef, Jimmy Reffé, lequel a travaillé notamment chez Saturne, chez Terroir d'Avenir également, donc une vraie sensibilité notamment pour le choix de ses produits, et ça donne des assiettes bistrotières au garde-à-vous, solides sur leurs appuis, qui bombent un peu le torse comme ce croque-monsieur que j'ai choisi. Alors ça, ça vous aurait plu, Elvira, voilà. Ce croque-monsieur. Un croque-monsieur vraiment gonflé à bloc, généreux, avec, vous savez, cette béchamel un peu boursouflée. C'est bien doré.
Il y avait pain blanc.
pain de mie, mais très épais, donc oui. À la fois croustillant et puis parfait. Extrêmement moelleux à cœur. Un jambon assez consistant, très bon croque, monsieur. Des poires aux vinaigrettes remis d'équerre par une sauce ravigote bien préparée.
Mais ça y est, j'ai faim. Je déteste cette émission, j'ai faim.
Pierre-Brice Le Vray, il fait les yeux doux, là. Il commence à me regarder, mais je vous emmènerai peut-être.
Mais avec plaisir.
Volontiers. Un tartare de bœuf, du charolais, soit 180 grammes haché au couteau, avec des câbles, des cornichons, un petit peu de sauce soja, des pommes allumettes maison qui étaient croustillantes et délicieuses. Voilà, un bistrot. Alors, assez bourgeois dans l'addition, mais quelle atmosphère. Il faut quand même noter un vrai effort au déjeuner, entrée plat ou plat dessert à 17 euros, ou entrée plat dessert 22 euros, ce qui reste une jolie performance, vu encore une fois le niveau des produits choisis. 25 rue Beautreilly, Paris 4e, au vin des Pyrénées. C'est un restaurant et un vrai café de quartier, avec notamment petit noir et viennoiserie toute fraîche, tous les matins. Dès 7h quand même, et ça ferme le soir à 2h du matin. On fait le point sur le pois chiche, juste après Gérald Toto, Richard Bona et Lukua Kanza, Ma Mama, on a faim sur France Inter.
Si moi aimer depuis nanina non, toujours et tout dans la caille. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour tout. Oh non non,
Ma.
Les manques à songer on peut pas attendre.
Ma.
Tout corps en moins qu'à mon desserré.
Ma.
Les manques à well c'est au moins qu'attendre.
Ma.
Tudo curte só.
E um boteco a moamite. Quando vi morrema. E só de um lemate. Quando vi morrema. De cana vou de lote. Quando bambe morrema. E lelô. E lelô. E lelô. Baladinde. E lelô. E lelô. E
qu'à songer, on peut pas attendre.
Ma.
Tout corps en moins qu'à m'en desserrer.
Ma.
L'amour qu'à well, c'est au moins qu'attendre.
Ma.
Tout doumi, c'est ça.
Chiche, nous avons voulu nous assimiler alors que nous devons nous faire aimer pour ce que nous sommes. Telle doit être désormais notre philosophie. Nul besoin pour être apprécié de renoncer à notre identité, elle est notre force. Notre place n'est pas dans le bœuf en daube ou dans la blanquette de veau. Le poulet dominical doit mijoter sans nous, la choucroute et le cassoulet aussi. Le navarin ne gagnera rien à la fin de ses haricots. Nous n'avons pas à rêver d'être apprêtés à la mode de Caen ou d'être appelés pour remplacer nos cousins tarbais dans le cassoulet, même si nous en sommes parfaitement capables. Nous n'avons pas vocation à jouer les seconds couteaux. Tel n'est pas notre rôle en cuisine. Pauvre pois chiche. La vie est dure pour le pois chiche en France, quand même, Pierre-Brice Lebrun.
Ben oui, là, c'est assez dur. Il a été très, très présent et très, très diffusé, très consommé, de, très longtemps. Et puis, oui, il a un peu disparu à un moment donné. C'est devenu un peu le légumineuse du pauvre, le machin qu'on n'utilisait plus. On m'a raconté pas mal d'histoires pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens qui survivaient avec le pois chiche. Parce que le pois chiche, on peut en faire du café. D'abord, il est plein de protéines, donc on peut le manger à toutes les sauces, si je puis dire. Et on peut même le fumer, il paraît.
On peut en faire du café?
Oui, on le moue.
Une espèce d'ersatz de café,
oui, d'ersatz
en le torréfiant.
Café. Voilà, en le torréfiant, ouais. J'ai essayé, c'est pas. Mais quand on n'a rien d'autre, ça vaut au moins de la chicorée, quoi.
Je lisais un extrait de Petit traité du pois chiche que vous avez signé en 2011, avant cette grande vogue pour le pois chiche, un moment où cette légumineuse était, on peut le dire, encore tout à fait oubliée ou méprisée.
Oui, j'ai eu du mal à convaincre l'éditeur, je confirme, car le pois chiche, il voyait pas bien l'intérêt. Moi, j'adore les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient, que je connais assez bien. Et donc, le pois chiche, on le retrouve à toutes les sauces, on le mange tout le temps, voilà. Et donc, c'était important pour moi de parler de ces pays-là aussi et voilà, à travers cette légumineuse, de parler de cette gastronomie qu'on connaît peu, et puis de remonter aux Omeyyades, aux Abbassides, voilà, qui ont inventé la gastronomie, en fait.
Nous avons autour de ce plateau un homme qui a pris le risque, avec son père, avant lui quand même, hein, rendons à César ce qui lui appartient,
c'est ça, depuis,
de se relancer, ou plutôt de se lancer dans la culture du pois chiche, là aussi, au milieu des années 90, à une époque où le pois chiche n'était pas forcément très bien considéré.
Tout à fait.
Jérôme Guissemas.
C'est mon père, Louis, donc, qui était d'origine espagnole. Andalouse et qui, bien sûr, connaissait cette légumineuse, le pois chiche, parce qu'en Espagne, on consomme beaucoup le pois chiche. En fait, ça s'est fait par tout hasard, en fait, avec un ami technicien qui lui a proposé des semences et ils ont commencé à semer et il s'est avéré que le pois chiche s'adaptait très très bien à notre climat, quoi, et produisait pas mal. Mm-hmm. Très vite, il y a eu un engouement au niveau de ses voisins agriculteurs et le Lauragais est devenu une terre de pois chiches.
Est devenu une terre de pois chiches, ni plus ni moins.
Voilà, tout à fait. Donc on est arrivé jusqu'à 3000 hectares de pois chiches rien que sur la région du Lauragais, ce qui est énorme.
Incroyable. Considérable. Et vous êtes en plus dans une culture tout à fait naturelle, puisque le pois chiche a comme avantage, parmi beaucoup d'autres, d'être assez peu gourmand à la fois en eau et pas du tout en intrants chimiques. C'est finalement une plante très rustique.
C'est une culture qui s'inscrit dans l'agriculture durable, on va dire, agriculture raisonnée aussi, si on peut dire. Mm-hmm. Donc effectivement, quasiment pas d'intrants, c'est-à-dire pas d'engrais, très peu de phyto, et un très bon précédent pour les cultures style céréales, blé dur, quoi. Mm-hmm. Donc, ce qui fait qu'elle a un intérêt agronomique assez intéressant, quoi.
Et c'est un engrais vert également.
Engrais vert et
pour quelle raison?
En fait, si vous voulez, donc c'est une plante qui a une racine assez importante, et donc elle capte l'azote dans l'air et elle le restitue au sol, quoi. Voilà.
Carrément. Donc voilà. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un engrais vert. Vous avez un commentaire à faire, Arnaud Daguin?
Étonnant. C'était pas sur l'agronomie, on y reviendra, mais c'était plutôt sur le Lauragais, qui est un pays de cassoles, comme on le sait, puisque le cassoulet vient en grande partie de là, et il y a des chances pour que les pois chiches aient rempli des cassoles avant le haricot, puisque ils étaient là bien avant l'arrivée du haricot. Je pense que c'est ça en fait qui s'est passé, ce
tout
switch de légumineuses et à l'arrivée de, comme ça a été le cas pour nos vieilles racines avec les patates.
Vous ne croyez pas si bien dire, Arnaud Daguin, la dernière recette de ce formidable petit bouquin, Petit traité du pois chiche. Votre prose est, comme d'habitude, prime sautière, érudite. On s'amuse vraiment à lire ce livre où vous mêlez à la fois des considérations culturelles, mais également beaucoup de recettes. Une drôle d'adaptation du cassoulet au pois chiche, justement, et je crois qu'il y a d'ailleurs une histoire entre vous. Hein.
C'est une petite recette familiale que j'ai eu un peu de mal à avoir, parce que la personne qui l'avait créée voulait vraiment la garder, ce qui est normal.
Attendez, vous êtes en train de dire que maman Guissemas a refusé de vous donner sa
non,
recette?
Non, elle n'a pas refusé, elle a relaclé.
Non, alors c'est vrai qu'on, voilà, donc avec l'engouement de ce pois chiche est né le chichoulet.
Vous entendez le nom, elle vient à chichouler.
Le fameux chichoulet qui a fait les joies de certaines fêtes villageoises à Vivier-les-Lavaures, où on faisait chaque année, en fait, on organisait un grand banquet où on faisait ce fameux chichoulet, où on remplaçait le haricot par du pois chiche, avec bien sûr du canard gras, de la saucisse de Toulouse.
Alors je vous pose la question, mais j'imagine la réponse, ça marche?
Ah, ça marche.
Oui, ça marche très très bien.
Ouais. Une espèce de ragoût de pois chiche, voilà, avec tout ce qui constitue toutes les protéines animales qu'il y a dans le cassoulet.
Alors c'est ça, associé avec quelques légumes. Et alors par contre, il est quand même un peu moins sec. Il faut le faire juteux. Il faut que ça mijote. Oui. Et franchement, c'est un régal, quoi.
Vous l'avez essayé ?
Oui, oui, je l'ai essayé.
Enfin,
à la maison.
Pas exactement cette recette, puisqu'elle est visiblement très très secrète.
Voilà, hein, c'est pour ça que j'ai un peu changé de nom. Je l'ai appelé Lou Chichet, parce que c'est le surnom de mon épouse Chichet. Donc, du coup, j'en ai profité un peu pour le monomie, on va dire. Et donc, oui, je l'ai essayé, l'opportuniste. Je l'ai essayé à la graisse de canard, au magret. Voilà. Ah oui, c'est prodigieux.
Magnifique, surtout que c'est quand même là-bas que vous habitez, faut le préciser.
Mais oui, c'est ça, au pays, voilà. La capitale du canard. Ouais,
ouais, donc, mais le pois chiche partage avec le haricot et les autres la capacité à capter tout et à restituer.
C'est ça, formidablement.
Qui précédait le haricot dans les
casseroles. Ah oui, il est arrivé en France par Marseille avec les Phéniciens. Donc en même temps que le vin, voilà. D'ailleurs.
Je pense qu'au pas plus précis, ce qui a précédé le haricot, c'est la fèvre.
La fèvre, oui.
On a des recettes romaines de pois chiche. Et d'ailleurs, le pois chiche s'est installé dans la vallée de la Cèze et qui tire son nom du pois chiche. Cèze, c'est pois chiche. Et ça remonte à très longtemps.
Puisqu'au sud-est de la France, y compris dans le comté de Nice, le Gard, ça a été des grandes terres d'accueil du pois chiche, dont les origines, on va le voir un peu, sont, on va dire, moyenne-orientales.
Voilà, ouais, on peut dire ça.
Pour être clair. Vous entendez ce petit bruit ? Ça, ce sont les pois chiches que nous a apporté notre producteur Jérôme Gussemas. Voilà. Juste un petit mot sur la forme du pois chiche. Alors, ils ont un gabarit particulièrement petit, ceux-là.
Oui, c'est du 7 mm. Donc, ça, c'est du pois chiche bio qui, effectivement, a tendance à être un peu plus petit. Mais, effectivement, donc, le pois chiche se décline en plusieurs calibres. Il y a le 7, le 8, le 9 et, au-delà de 9, du 10 ou du 12. Quoi.
Différence de goût ?
Alors, différence de goût, oui, différence de goût et différence.
Plus c'est petit, meilleur c'est ?
Alors, pour moi, plus petit, meilleur c'est. Ouais.
D'accord.
parce que alors, la forme est différente. En général, quand il est petit, il est un peu plus rond, donc il est plus facile à cuire.
Oui.
Et le gros, pour moi, il est un peu trop farineux, quoi. Mais bon.
Donc, le gros, il est bien pour faire du houmous, par exemple.
Il est bien pour faire du houmous.
On va y venir, Elvira. Vous ne croyez pas si bien dire. Simplement, j'aimerais juste avant que notre érudit, Pierre-Brice Lebrun, nous explique sa forme, sa drôle de forme, qui pourrait être expliquée par son étymologie.
Oui, aries, ça veut dire bélier et tête de bélier.
Parce que le nom complet de pois chiche en latin, c'est
Cicer.
Arietinum.
Voilà. De aries, la tête de bélier, le bélier. Quand on le regarde de profil, alors regarder de profil en pois chiche, ça peut paraître bizarre, mais il a vraiment une tête de bélier.
Mais il est cornu.
Oui, il est cornu. On voit le museau et les cornes. Oui, tout à fait.
Et Cicer, il y a vraiment un lien entre Cicéron et Cicer ou pas du tout ? Ou c'est une légende ?
Alors, expliquez-nous.
Oui, il semblerait. Alors, c'est pas Cicéron qui avait une verrue, c'était son arrière-grand-père, je crois, qui avait un nez en forme de pois. Voilà. Et donc c'était pas son nom, Cicéron, c'était son surnom. Ils avaient nom, prénom, surnom. Et donc toute la famille Cicéron s'est appelée Cicéron en l'honneur du grand-père qui avait un nez, on imagine, en forme de pois.
Jérôme Gussemas, vous avez assez de recul puisque votre père, Louis, c'est ça ?
C'est ça.
Cultive du pois chiche dans le Lauragais depuis 1996.
C'est ça.
Suffisamment de recul pour nous dire si vous avez constaté effectivement ces dernières années un véritable engouement pour cette légumineuse.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. L'émergence de la culture bio a développé, bien sûr, c'est ce genre de culture, que ce soit la lentille, le pois chiche, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un très très bon précédent pour les céréales derrière. Donc effectivement, il y a un engouement et je dirais qu'aujourd'hui, on est sorti des bassins de production traditionnels que sont le sud-est et le sud-ouest pour aller plutôt vers des territoires un peu plus au nord de la France comme la Vendée, voire même la Beauce. On peut trouver du pois chiche en Beauce.
Carrément, aussi haut que ça en France.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et vous pensez, Pierre-Brice Lebrun, que c'est aussi lié à une espèce de, on va dire, l'engouement pour la cuisine végétale qui fait qu'on est à la recherche de bonnes protéines d'origine végétale pour essayer de diminuer sa consommation de viande. Vous pensez que le succès du pois chiche s'explique aussi par ça ?
Oui, c'est possible. C'est peut-être aussi l'attrait pour une cuisine exotique, un peu, des saveurs un peu nouvelles. La cuisine se réinvente régulièrement et donc on redécouvre des saveurs. Il y a une quinzaine d'années, houmous, il n'y a pas grand monde qui mangeait du houmous. Donc on a redécouvert, on a apprécié.
Il y a l'effet vegan aussi qui a amené le bio. Qui favorise effectivement ce genre de légumineuses. Quoi, parce qu'effectivement, un purée, ça peut être un condiment excellent. Quoi.
Houmous, Pierre-Brice Lebrun a dit houmous.
Sur France Inter, je déguste, tu dégustes. On va déguster.
Je vous ai entendu parler français, donc vous êtes française.
Oui, je suis française à Tel Aviv. Ça va faire bientôt 2 ans, ouais, 2 ans que je vis ici.
Et vous faites la file à Abu Hassan, donc c'est vraiment l'institution, tout le monde vient ici. Hein.
Tout le monde vient ici, mon mari est complètement fan du houmous d'Abu Hassan, donc je suis ici quasiment tous les vendredis, soit on s'assoit, on s'installe, on déjeune. Soit on vient rapidement en voiture, on prend 2-3 boîtes de houmous et on repart tranquillement à la maison avec pour le week-end.
Notre reporter Lénora Krief est partie en Israël, figurez-vous, à la recherche du meilleur houmous. Elle l'a peut-être trouvé avec Emmanuel Schwab, qui est fondateur de Happy Inn Tel Aviv. C'est un site qui référence les tendances de la ville blanche. Alors où est-ce qu'elle est partie ? À Yafo, c'est le nom hébreu pour le quartier de Tel Aviv, Jaffa, la vieille ville, hein, un quartier historique où les Juifs et les Arabes israéliens vivent ensemble, et sa table ensemble chez Habu Hassan, un petit restaurant populaire ouvert en 1962 qui est vraiment devenu légendaire pour ses assiettes de houmous.
Exactement, donc à Abu Hassan, les gens viennent évidemment de tout le pays, du monde entier pour goûter...
Du monde entier.
Du monde entier, il est dans tous les guides touristiques, c'est vraiment l'endroit où il faut passer pour manger un houmous et un vrai houmous local.
À Tel Aviv, du houmous, on en trouve partout.
Oui, mais le houmous de Abu Hassan, on le trouve nulle part autre qu'à Yafo. Sa texture, la manière dont il va le présenter et puis l'ambiance aussi qu'il va créer autour de ses plats. Il y a uniquement à Yafo et à Abu Hassan qu'on retrouve ça.
Alors, il faut quand même bien décrire ce qui vient de se produire. Donc là, on a effectivement commandé du houmous et on vient de nous jeter une petite assiette d'oignons avec plusieurs pitas. Hein. Et une petite sauce. Mais alors, on jette sur la table. Hein.
On jette sur la table.
Il n'y a pas de manière ici.
Non, ça crie, ça jette sur la table, c'est brut. L'oignon a été coupé en quatre uniquement. Voilà, c'est brut de décoffrage, mais c'est excellent.
Donc là, on a deux belles assiettes. En fait, les pois chiches sont restés entiers à l'intérieur. Ils mélangent les pois chiches hachés avec les pois chiches entiers.
Exactement. Alors d'un côté, on a la purée de houmous, qui est le houmous qu'on connaît tous. Et dans cette purée de houmous, il va incorporer des grains de pois chiches entiers. Donc il va y avoir cette différence de texture dans la bouche. Au-dessus de cela, il va mettre de l'huile d'olive et également un filet de citron dans toute la mixture qu'il va apporter. Et du paprika et enfin du persil pour la touche colorée. Paprika et persil, le vert et le rouge avec le blanc, c'est superbe.
On va le goûter. Alors, faut savoir quand même que c'est servi avec la pita, une petite sauce et les frites. Hein.
Les frites et les falafels. Et il faut surtout prendre un morceau de pita et le tremper dans toutes les couleurs de l'assiette pour ne rien rater des saveurs.
C'est vrai qu'il est vraiment bon. Hein.
Il y a ce côté citronné aussi qu'on ne retrouve pas dans tous les houmous qui permet d'ouvrir aussi un peu les saveurs.
Il est un peu chaud en plus. Hein.
Il est à température ambiante, un peu plus chaud que la température ambiante. Et il y a vraiment la possibilité de sentir aussi bien les textures, aussi bien l'huile, le houmous en purée.
La terrina aussi.
Et la terrina qui va faire l'alliage entre tout. La terrina qui est la sauce, la purée de sésame qui va y avoir au milieu.
Vous n'avez pas eu d'œuf. Moi, j'ai eu de l'œuf.
Oui, pour des questions de goût, que je n'ai pas pris d'œuf. Mais sinon, c'est vrai que c'est avec un œuf que le houmous est servi chez Abu Hassan. Le houmous complet, c'est avec l'œuf au-dessus.
On a fini toute l'assiette là, hein, Manu.
On a fini l'assiette. Même à la fourchette, sans pita, on peut continuer à la manger jusqu'au bout.
En fait, c'est un plat ici. Une assiette de houmous, c'est un plat.
Les gens, ils viennent manger une assiette de houmous. Alors, avec différentes variantes, il peut y avoir aussi des fèves dans le houmous ou uniquement le houmous sans les grains à l'intérieur, donc le houmous en purée. Il y a différentes variantes et les gens viennent manger exactement une assiette avec du houmous. Là, on est dans les cuisines. Il y a beaucoup d'effervescents. Alors, c'est un des fils d'Abu Hassan. Il y a trois fils et quatre filles, donc ils ont sept enfants. Et c'est l'un des fils d'Abu Hassan.
Okay.
Il y a environ 500-600 personnes qui vont manger une assiette de houmous avec ce qu'il prépare aujourd'hui.
Qu'est-ce qui fait que son houmous est si exceptionnel ?
Il dit que la recette, évidemment, c'est un secret, il ne voudra pas la révéler, mais il dit que ça fait 60 ans que c'est la même recette et c'est ça le secret, c'est de son père et qu'ils n'ont rien changé de la recette originale.
Abu Hassan à Tel Aviv, où notre reporter Lénora Krief a mangé son pois en houmous.
Mais quelle chance elle a eu.
Est-ce que vous connaissiez cette adresse un peu culte ?
Oui, et moi la recette est dans le livre. Je suis désolé, mais elle est dans le bouquin. Elle apparaît dans un roman policier d'un auteur anglais qui s'appelle Matrice.
Oui.
Et son héros, qui est le professeur, le nom m'échappe, va manger du houmous là. Il explique pendant qu'il l'interroge.
Et vous êtes en train de nous expliquer que cette adresse qui suscite l'hystérie partout dans le monde, chez tous les houmousophiles, elle est dans votre bouquin.
À cause d'un polar.
Et ben voilà.
Comme quoi, il faut lire pour apprendre des trucs.
Alors maintenant, il vous reste plus quelque chose à faire, Pierre Brissebois.
Je dis quand vous voulez.
On ne peut pas vous y envoyer, malheureusement, on n'a pas les moyens. En revanche, on vous estorque la recette ou les grands principes de cette recette de houmous.
Bah écoutez, deux têtes, il met beaucoup de citron, il met deux citrons, je sais plus quelle page.
Page 33.
Page 33.
On vous aide.
Donc alors, citron, il y a toujours
du
citron.
Il y a du pois chiche, ça c'est ce que je peux vous révéler.
Une gigantesque bassine. Voilà, c'est dans le roman qui s'appelle Meurtre chez les Samaritains.
Oui.
Donc Omar Youssef, le héros, donc il va manger dans la casse-pâte, tout ça. Prépare son houmous dans un mixeur de la taille d'un seau. Il presse deux gros citrons au-dessus des pois chiches, de la théina et de l'ail avant de servir du foule. Une omelette aux aubergines et de l'houmous qu'il mange avec du thé en trempant dedans leur pain.
C'est ça. Voilà. Car la définition, si on est un peu puriste, du houmous, ce n'est pas que des pois chiches. Il y a quelques éléments vraiment indispensables qui font un houmous.
Alors il y a de l'huile d'olive, forcément.
Oui.
Et il y a du citron ou pas. Il y a un grand débat.
Ça c'est sûr.
Voilà, plus ou moins de citron. Et puis a priori du sésame.
C'est
on
ça.
On peut faire sans sésame. C'est franchement moins sympa. On peut aussi manger le sésame à part. C'est le tahini qu'on peut faire soi-même. Hein, des graines de sésame qu'on passe à la poêle et puis qu'on broie avec de l'huile d'olive.
C'est ça. Tahini qu'on appelle trina en Israël. Hein.
Voilà,
c'est tout ça, c'est la même chose.
Oui, tout
c'est
ça.
Cette
c'est
pâte de sésame.
En fait, tous
ce
ces
sésame
pays
qui est vraiment pilé pour
la
faire
même
une
gastronomie.
Crème.
Voilà. Et les mots changent parfois. Les noms des plats changent parfois d'une virgule, d'une lettre ou d'un accent. Mais ils mangent la même chose. Quoi.
On ne s'engagera pas sur les origines du houmous parce que ça, ça suscite des querelles régionales très très fortes. On va dire que globalement, on prend pas de risque en disant qu'il y a une origine levantine. Hein.
Oui.
Voilà,
oui.
Sur le houmous, Liban, Syrie, voilà. Israël a récupéré un peu la recette, etc. Et il y en a une autre qui a récupéré une recette. C'est Elvira qui est en train de nous faire goûter un houmous, mais alors vraiment électrique, qui dépote. Moi, je l'aime beaucoup. Il est frais, il est vif. Quel
là,
est le secret de votre houmous?
On peut dire qu'il y a du citron.
Ouais, mais j'adore.
Alors moi, il me semblait que dans les recettes plus orthodoxes de houmous, on pouvait ne pas mettre de citron, mais j'ai l'impression qu'en fait, comme vous le disiez, Pierre Brice, il n'y a pas vraiment de recettes. Il y a autant de recettes qu'il y a de familles ou qu'il y a de fabricants de houmous dans la rue, parce qu'à l'origine, on l'achetait plutôt dans la rue, on ne le faisait pas forcément à la maison.
Mm-hmm.
Beaucoup de vinaigre s'y prête aussi, hein, je dis ça, si jamais on n'est pas à la saison des agrumes.
Oui, d'ailleurs, on peut mettre du sumac aussi, à la place du citron.
Très bonne idée.
Beaucoup de vinaigre
cette petite épice citron des montagnes.
Alors, je n'ai aucune prétention à faire un houmous fidèle
bon,
à la lettre. Et je n'ai pas 40 ans de métier, comme le disaient les personnes dans le son, dans l'adresse que Lenora a visitée. Moi, ça fait que 10 ans que, effectivement, j'en pratique
pratiquement
au quotidien.
Entre minuit et 2h du matin.
Alors, je dois vous confesser que je ne me sers jamais de pois chiches secs. Parce que j'ai la flemme. Voilà, donc je prends des pois chiches en boîte ou mieux en conserve de verre. En général, ils sont plus qualitatifs. J'essaie de prendre des pois chiches
bio, moins
bio, italien ou français en fonction de ce que je trouve.
Oui.
Et je mixe ça avec, en fonction de la
donc,
quantité.
Attendez, vous les égouttez ?
Je les égoutte.
Donc vous gardez
rince,
le jus. Effectivement.
Je garde le jus pour ce que je vous raconterai après.
Oui. Et vous les. Vous...
Je les passe au mixeur, un petit mixeur, voilà. Avec le jus d'un citron entier ou deux ou trois. C'est le problème du romo, c'est que c'est un peu empirique, hein, ça dépend de la quantité. Je mets pas mal de tahine, moi. Je mets au minimum deux grosses cuillères à soupe.
Cette crème de sésame qu'on trouve globalement,
dans les
notamment dans les, et, ou les magasins bio.
Magasins bio, de plus en plus, oui.
Une petite pointe d'ail. Alors ça non plus, c'est pas forcément très orthodoxe. Moi, j'aime bien.
Qu'est-ce qu'il dit, Jérôme Gussin?
Ben moi, je suis du Tarn, donc l'ail de Lautrec, l'ail rose de Lautrec.
Ah voilà, donc il en faut. Vous êtes au moins d'accord là-dessus.
Moi, je mets du cumin.
Bonne idée. Ah bah oui, petite touche de cumin, ça c'est bien aussi.
Oui, c'est bien ça, cumin.
C'est pas mal, ouais.
Un peu de sel poivre. Parfois, je mets un peu de zaatar. Vous savez, ce mélange d'épices libanais, donc je mélange un peu tout.
À base de thym, avec des graines de sésame aussi, ouais.
Et un peu de sumac. Et ensuite, surtout, je laisse quelques pois chiches entiers. Je mixe pas tout, parce que comme c'est mon plat de subsistance quotidien, il faut bien quand même
c'est
que j'ai un peu de mâche.
Quand même.
Voilà, faut un peu de mâche. Et en général, quand je peux, je mets quelques grains de grenade dessus, du persil plat haché, un peu de coriandre haché.
C'était très bon ça.
Et emballé, c'est pesé. Et voilà, j'ai dîné.
Il manque un peu de poivre.
J'en ai mis un petit peu.
Vous l'avez mis parce que c'est vrai qu'il faut, le relever un petit peu.
Vous avez un commentaire à faire sur le houmous de Elvira Masson?
Il est très très bien. On l'a goûté, il est très très bon.
Le vôtre est pas mal non plus.
Alors nous, on fait le houmous tarné. Qui est en fait une crème de pois chiche où on met pas de sésame et on met pas d'huile d'olive. Nous on utilise de l'huile de colza bio.
Ça c'est bien.
Et voilà, donc c'est une variante qu'on a déclinée avec plusieurs épices, curcuma, au paprika. Voilà, et donc on fait
il est très bon. Hein.
Oui,
on peut le trouver où?
Alors on peut le trouver dans certains commerces région toulousaine. Hein.
Oui.
Voilà, la ferme des Violettes pour ne citer que. Donc, et on le conditionne dans des petites conserves de 120 grammes, voilà, qui peuvent soit se consommer à l'apéritif, soit en entremets.
Vous ne vendez pas en ligne encore?
Ça se vend pas en ligne. Non.
C'est une réussite en tout cas. Hein. Ouais, félicitations pour ce houmous au naturel. Là, on est sur la pureté du pois chiche et ça a aussi son intérêt.
Les enfants raffolent.
Elvira.
J'ai une recette à signaler qui est issue du nouveau livre de Kamal Mouzawak.
Eh oui, évidemment.
Que nous avions reçu.
Bien sûr.
Manger libanais chez Marabout, c'est la recette de houmous, à mon avis, la plus. la plus éprouvée dans sa famille. C'est tout simple, pois chiche, tahini, jus de 6 citrons pour 500 grammes de pois chiche, 6 citrons. Donc le sien doit être bien monté en acidité, huile d'olive, sel et basta.
Eh bien écoutez, c'est formidable, on s'y reportera. Merci beaucoup. Dans un instant, on va évoquer bien d'autres choses encore. Il y a le coup de lame d'Arnaud Daguin qui nous attend. Que faire avec de l'eau de cuisson des pois chiches? Et puis d'autres petites spécialités comme la soca par exemple.
Ah, la soca.
Courtney Barnett et Kurt Weill avec Over Everything.
When I'm all alone on my own by my lonesome and there ain't a single nother soul around, I wanna dig into my guitar, bend the blues riff that hangs over everything.
And it's daytime, cause down under, oh, wherever it is I live when it's evening. You know I speed read the morning news and come up with my own little song. Oh, so too. Step outside to a beautiful morning where the trees are all wagging, my head flag waving, the scenery raging, my life love cascading in the smog haze over everything.
When I'm outside in a real good mood, you could almost forget about all the other things, like a big old ominous cloud in my periphery. Days I inhabitate a high-pitched ring over things. So these days I plug them up.
When I'm struggling with my songs, I do the same thing too. And I crunch them up in headphones, cause why wouldn't you? You could say I hear you on several levels at high decibels over everything.
On va déguster les saveurs de l'été.
Chic, le pois chiche au menu dont on va déguster. Alors c'est vrai qu'on connaît cette petite graine toute cabossée, voire cornue. En revanche, il y a pas mal d'auditeurs qui nous demandent, mais à quoi ressemble la plante? C'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de la voir pousser.
Oui.
Jérôme Gussemas.
Alors cette plante, effectivement, elle est un peu particulière. Donc elle fait à peu près un mètre de haut. C'est une plante qui est très très verte, qui en végétation recouvre quasiment toute la surface du sol.
Oui.
Donc quand il est en fleur, ben on voit plus du tout la terre. Donc c'est une plante assez ligneuse qui a à peu près 5-6 ramifications, 5 branches. On peut compter jusqu'à entre 50 et 80 gousses par pied.
Oui.
Il y a en général 2 à 3 grains par gousse.
Donc c'est comme le principe des autres fabacées, des haricots, etc. Il y a une gousse qui comporte des graines à l'intérieur.
Voilà, c'est ça, une gousse, comme on disait, en forme de ballon de rugby, qui est assez ronde, assez petite. Et puis donc voilà, le pois chiche a la particularité de faire une toute petite fleur blanche. Et il est en général en fleur pendant 90 jours. Quoi.
Et le cycle de cette plante, vous plantez quand le pois chiche ?
Alors le pois chiche se sème au mois de, on va dire, sur la période de février, mars, avril.
D'accord.
Voilà, en général, quand on est en agriculture traditionnelle, on va le semer au mois de février. En agriculture bio, on va retarder le semis, donc on va être sur le 15 avril.
D'accord.
Et ça se récolte au mois d'août.
Donc c'est 120 voilà. jours à peu près de cycle.
Voilà, c'est minimum 120 jours, donc ça va de 120 à 150 jours. Quoi. Voilà.
Pierre-Brice Lebrun, est-ce que vous avez entendu parler de cette petite folie pour le pois chiche qu'on connaît mûr et sec habituellement, ou éventuellement en conserve quand on est flemmard comme Elvire Masson, mais à un stade un peu maturité verte, on va dire, un peu comme le petit pois finalement.
Tout à fait, oui.
Et là, il y a une vogue, notamment on le déguste maintenant chez des grands chefs comme Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris, ou chez Armand Arnal qui a la Chassagnette en Arles. Vous connaissez le goût de ce pois chiche ?
Oui, moi j'en ai goûté en Turquie. Ça ressemble à un pois, en fait, un gros pois. Enfin, c'était très bon.
C'est délicieux. C'est délicieux.
Ah, vous connaissez Arnaud Daguin ?
Un peu, oui.
Quel goût ça ? C'est plus sucré que le pois, je trouve.
Oui, probablement. C'est très très gros.
C'est plus gros, donc c'est très très bon.
Qui est très frais et avec lequel on peut faire des veloutés frais et glacés absolument formidables. Son seul inconvénient, c'est que quand il est frais, il est tout petit. Comme ça, c'est un rendement terrible.
C'est comme un petit pois ?
Ça veut dire c'est plus petit. Il y en a deux par gousse, je rappelle. Donc le travail.
Oui.
Et en fait, je pense que s'il n'a pas plus de succès, c'est parce que c'est un vrai souci de l'éco. Enfin, pas un souci, mais il faut se mettre à plusieurs autour d'une table pour écosser tout ça quand c'est frais. Quoi.
Et on peut le faire un peu comme des petits pois à la française.
À la française, absolument. Oui, avec trois lardons, un peu d'oignons, et en le laissant dans son eau. Oui, tout
c'est
à
ça,
fait.
Des oignons un peu glacés comme ça, des oignons nouveaux, ça vous branche ?
Oui, ça me branche. Oui.
Bon, le pois chiche nous branche, nous aussi. Et pourquoi pas le coup de lame d'Arnaud Daguin ?
Sur France Inter. On va déguster.
Cuisinière, cuisinier, pois chichienne, pois chichien. Le pois, c'est la nouvelle rayure, décrète Jean-Charles de Poistel-Bajac. Vous connaissez François-Régis, ce couturier fringant ?
Ah, je vois, c'est celui qui a lancé la mode du pois chic.
Absolument, il est très célèbre dans le milieu houmous. Celui-là même, donc, il ajoute le pois. C'est bon sous toutes les coutures et en toute saison. Collection d'été, l'aneton froid, velouté glacé de petits pois, tartine de pois frais à la brousse de brebis. Collection d'hiver, l'aneton chaud, brandade de pois cassés, pois gras de canard.
Pois gras de canard.
J'y viens, François-Régis, laissez-moi broder encore un peu. Le pois, donc, a aussi l'élégance de flatter la silhouette, car il n'en fait pas prendre de pois. Tissé de protéines, pailleté de fer, surpiqué de vitamines, le pois est un modèle, un top modèle nutritionnel, comme ses amis fèves, soja, lentilles, toutes ces délicieuses légumineuses qu'on aime tant voir défiler sur nos tables. Un modèle pour la santé, certes, mais également pour l'agriculture. Vous connaissez le poids du pois dans nos campagnes, François-Régis ? Son talent pour raccommoder les sols meurtris par les labours ? Le pois. Petite main des champs, ravaude les réseaux de champignons, brode l'humus d'azote et garde les sols vivants. Ne laissons plus les sols à poil, rhabillons-les avec des pois. Car enfin, il faut en découdre avec ces sols labourés dont les tissus s'effilochent. Il ne faut plus laisser nos sols perdre leur carbone et leur vie. Nous avons besoin de sols fertiles pour nous nourrir tous convenablement. Heureusement, de nombreux paysans ont pris les mesures du problème et on voit aujourd'hui poindre les résultats de leurs efforts. Des milliers d'hectares reprennent vie grâce à ces optimistes qui ont compris que l'essentiel, c'était la vie même du sol, la présence de matières organiques, d'arbres, de champignons, de bactéries, de vers de terre. Ils ne labourent plus, ils sèment directement la future récolte dans la précédente, habillant les sols en permanence pour qu'ils soient de plus en plus vivants. Et vous savez quel est mon boulot, François-Régis, quand je fais pas le clown à la radio ?
J'ai hâte de le savoir, non ?
Eh ben, c'est d'accompagner ces paysans pionniers afin que leurs beaux produits ne soient pas noyés dans la masse, qu'on les reconnaisse et qu'on les valorise comme il faut. À sol vivant, produit vivant et à produit vivant, humain, bien portant.
Bravo, chef ! Bon alors, le pois gras.
Le pois gras gascon. Dans l'idéal, vous avez gardé soigneusement la graisse de vos conserves de foie gras et vous avez su vous procurer les précieux pois carrés du Gers.
Ah, pois carrés du Gers. En voilà une autre légumineuse.
Sinon, contentez-vous de graisse de canard et de simples pois cassés. Trempez-les une nuit et cuisez-les gentiment avec deux gousses d'ail et un bouquet garni. Quand ils sont bien fondants et qu'ils ont bu toute l'eau de cuisson, laissez-les tiédir, puis mixez bien fin en y incorporant la moitié de la graisse de foie gras fondu et un petit dé à coudre de très bon armagnac. Mm-hmm. Moulez tout ça en terrine et recouvrez du reste de la graisse fondue. Mmh. Une nuit au réfrigérateur, et assaisonnez d'un peu de fleur de sel, de poivre du moulin, et surtout, servez sur du bon pain. Du pain vivant. Allez, nourrissez-vous les uns les autres, et vivez joyeux.
Merci Arnaud, et bravo. Alors le pois carré, on fait quand une émission sur le pois carré?
Bientôt. Je pense que c'est un pois qui est promis un formidable avenir.
Oui, qui a vraiment une forme...
Je suis preneur, parce que je suis producteur de pois carré également.
Mais alors, ben voilà. Le pois carré, en un mot, il a une forme un peu cubique.
Il est carré. Il est carré, en fait. Il y a plusieurs variétés, mais il y a des variétés qui sont vraiment... il est carré, il est plat, carré. Voilà, ça ressemble...
Le pois carré et le prochain pois chiche.
Voilà.
Je vous rappelle qu'au Salon de l'agriculture, l'année dernière, j'avais fait au stand du Gers le velouté Raymond pois carré.
Ah, génial. Ah, j'adore. Mais moi, j'aime beaucoup le pois gras gascon aussi. Bravo pour vos jeux de mots, Arnaud Daguin. Une petite actualité. Vous êtes au cœur d'une actualité qui va intéresser certains de nos auditeurs gourmets, Arnaud.
Vous me gênez.
Allez.
Bah, c'est le résultat.
Qu'est-ce que c'est que ce gag?
C'est un gag. C'est le résultat d'une conversation d'ivrogne, on va dire. Voilà, comme toujours, avec Alain Coumon et Agnès Deville. Un soir, on s'est dit qu'il y avait trois familles de produits qui étaient vraiment, vraiment, vraiment maltraitées aujourd'hui. Mm-hmm. Et on parlait là des gras, oui. De l'alcool,
oui.
Et du gluten.
Absolument.
Et donc on s'est dit que peut-être ça vaudrait le coup d'ouvrir une vitrine pour remettre ces produits à leur juste place, ce qui est essentiel en fait. Gras, alcool, gluten, ça fait gag.
C'est ça.
Voilà. Donc nous avons ouvert cette petite boutique. On peut déjà venir y chercher le pain, le gras et les vins nature, du pain nature. De Roland Feuillat.
Mais oui, qu'on a reçu il y a quelques semaines,
voilà,
bien
celui
sûr.
Celui du Fournil des Champs.
Bravo.
Des vins nature, sélectionnés par Nicolas Monestier. Et évidemment, le gras qu'il faut, du canard, du cochon et du végétal aussi.
Et l'adresse de gag, et que ça saute.
3 rue de Palestro, dans le deuxième.
C'est ça. Ah oui, en plein Paris, au milieu.
Au milieu de Paris.
Au centre de Paris. Formidable.
Le gras, c'est la vie.
Oui.
Ah, je suis bien d'accord.
Même les bons gras du pois chiche, évidemment. À noter quand même qu'un houmous, on dit c'est pas trop gras. Je crois qu'en nombre de calories au 100 grammes, c'est quand même quelque chose, Elvira, non? Oui. Ça se voit pas sur vous, mais...
J'ai pas le chiffre en tête, 340, je préfère ne pas trop le savoir.
Oui, c'est ça, entre 340 et 380
oui, mais quand on
calories.
Aime.
Tout le monde sait que ce ne sont pas les calories qui font grossir maintenant, voilà. François Régis, enfin...
C'est les miroirs.
Vous avez raison. Pierre-Brice Lebrun, on évoquait le houmous. Évoquons son cousin levantin sphérique. Vous voyez à qui je veux faire ou à quoi je veux faire allusion?
Serait-ce le falafel?
Absolument.
Alors le falafel, par contre, il n'est pas forcément levantin, peut-être égyptien.
Oui, c'est vrai.
On a des traces dans des pyramides. Voilà, ouais. Donc a priori, 3000, 4000 ans, la falafel.
Là, on est sur une boulette végétale.
Ah ben oui, une boulette, donc du coup, moi tout de suite. voilà. Boulette de pois chiche, est-ce qu'on met des fèves ou pas? Il y a deux écoles.
Ça, c'est le débat.
Voilà, on peut les mélanger. Moi, ceux que je vous ai amenés, là, il n'y a pas de fèves, mais
donc, c'est 100%. Alors, c'est du pois chiche ou... Enfin, c'est du pois chiche haché?
Du pois chiche haché.
C'est ça, du pois chiche haché.
Du pois chiche
haché. Et dans certains pays, comme la Syrie notamment, on fait moitié pois chiche haché, moitié fèves hachées.
Voilà, moi j'ai vu moitié, tiers, deux tiers, un tiers, un quart, deux
tiers. Et en Égypte, enfin, on fait 100%.
Oui, en Égypte, on fait 100%. Et donc, voilà, pois chiche, oignon ou pas, ail ou pas, donc chacun son truc. On en fait des petites boulettes et on les frit à l'huile d'olive, normalement.
Vous savez qu'il est très bon, votre falafel, même froid?
Oui, même froid.
Qu'est-ce qui lui donne cette couleur verte à cœur? C'est des herbes?
Du persil plat.
Ah voilà.
Un peu de basilic.
Un peu d'épices.
Un petit peu de piment. Alors normalement, j'ai mis de l'espelette forcément, mais voilà, un peu de piment pour relever. C'est pas non plus obligatoire le piment, mais c'est un petit truc comme ça. Voilà, beaucoup d'huile d'olive, un peu de paprika, j'ai dû mettre un tout petit peu de farine pour que ça prenne bien.
D'accord.
Voilà. Et puis c'est frit. Alors moi, je le fais à la graisse de bœuf. On était dans la graisse bon belge.
Mais
vous avez des origines belges.
C'est des falafels belges.
C'est dans le blanc de bœuf. Faut-il le rappeler qu'on cuit les frites belges?
Mais exactement, voilà. Donc il m'en restait, voilà. Mais sinon, c'est à l'huile d'olive normalement. Et quand ça se mange chaud et quand ça se chaud avec de l'houmous et un petit pain pita.
C'est vrai, réussite.
Oh là là.
Oui, car le falafel, on peut l'intégrer évidemment dans un sandwich à base de pain pita.
C'est ça.
Avec des crudités, des pickles.
Exactement.
Il n'y a rien de meilleur dans la vie.
Et tartiner.
Une sauce blanche. Elle y arrête aux anges.
Et alors, on peut juste rajouter peut-être un petit verre de vin, un petit verre de vin syrien, parce qu'on oublie souvent que ces régions produisent des vins formidables. Et donc, un petit vin blanc syrien, le Bargillus, qui est absolument fabuleux avec tout ce qui est pois chiche.
Très
si
bien.
Je peux me permettre.
On va déguster.
Attention, on va jouer à un jeu dangereux. Alors là, j'ai un peu peur parce que notre voisine qui nous a fait très très envie avec son mousse, risque de jeter un froid sur le plateau dont on va déguster. Elle m'a rapporté cette chose. Comment vous pourriez la décrire, Arnaud Daguin? Une fiole avec un liquide.
Un échantillon pour une analyse physiologique
connue. Je n'osais pas le dire. Absolument. Une petite fiole en plus qui est graduée. On a vraiment l'impression que on a vraiment l'impression qu'on a rendez-vous chez son labo juste après.
C'est pas ragoûtant, on est d'accord.
Mais de quoi s'agit-il?
Mais il s'agit tout simplement d'un liquide que l'on trouve dans... Bah moi, comme j'ai la flemme de tremper mes pois chiches, j'achète des pois chiches en boîte. C'est le liquide que contient le pois chiche en boîte. Mais c'est également le liquide que l'on trouve qui résulte de la cuisson des pois chiches. Et ça a un nom. C'est le liquide jaunâtre, saumâtre.
C'est le jus de cuisson, c'est ça, non?
Le jus de cuisson s'appelle de l'aquafaba. Aqua comme eau en latin, et faba comme haricots, fèves et pois chiches.
Donc ça peut marcher avec l'eau de cuisson d'autres légumineuses, comme les lentilles, absolument, comme les haricots, etc. Absolument. C'est pas que le pois chiche, d'accord?
Même si j'entends dans la sphère végane, parce que c'est vraiment la sphère, la véganosphère culinaire, qui s'est entichée de ce produit-là, que la concentration en protéines des pois chiches est plus forte que dans d'autres légumineuses. Ça, donc la texture serait optimale dans le pois chiche, mais ça peut marcher avec d'autres.
Juste, si je peux me permettre, une petite remarque. Allez-y. C'est la nature même du pois chiche qui va faire ça et non pas le fait que c'est un pois chiche. C'est comment il a été cultivé, de quel sol il vient, et c'est ça qui va faire qu'il a ce qu'il faut pour transférer dans l'eau.
On est d'accord. Juste avant qu'Elvira poursuive, aquafaba, parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui ont les yeux ronds derrière leur poste. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette tendance?
Oui, moi je suis
d'utiliser l'eau de cuisson de
pour faire des meringues, par exemple.
Oui, voilà. Ouais.
Ou l'eau de cuisson des haricots pour faire des mayonnaises. Ça fait des faillonnaises, du coup.
Alors, Elvira, quel miracle.
Mais justement, vous parliez des blancs d'œufs et des meringues. Ce jus de pois chiche a des propriétés remarquablement similaires à celles des blancs d'œufs.
Et voilà.
C'est donc un liquide qui, quand on le travaille, devient visqueux, peut monter en neige, qui est bourré de protéines et qu'on peut tout simplement battre en une mousse magnifique qui fait des becs sur les... Comment on dit sur les...
Si, absolument, les becs d'oiseaux.
Le mixeur, voilà. Ouais. Elle est parfaite donc pour réaliser toutes les recettes qui requièrent des blancs d'œufs.
Donc quand on est allergique,
si
notamment aux œufs.
Si vous êtes allergique, végétalien ou tout simplement adepte de la lutte anti-gaspi, tout simplement si vous n'avez pas blanc d'œufs sous la main et que vous voulez faire des meringues, la mousse au chocolat, une île flottante, voire, c'est un peu plus tiré par les cheveux, certains cocktails qui requièrent du blanc d'œuf type whisky sour, on peut avoir une violente envie de whisky sour chez soi, de blanc d'œuf à la
maison. J'ai vécu ça.
Mais pas seulement, vous le disiez, Pierre-Brice, l'aquafaba s'émulsionne également facilement avec un corps gras, donc on peut faire la mayonnaise. Ouais. Vous parlez de petits phénomènes, c'est un vrai phénomène qui agite la véganosphère.
Oui, il y a même des bouquins.
Oui, on l'a là.
Oui.
Aquafaba aux éditions La Plage.
Évidemment, il est très bien,
Une page Facebook Aquafaba qui fédère des dizaines de milliers de fans, un site internet qui lui est consacré. Alors en pratique, c'est plus compliqué. Quand on commence à se plonger un peu dans le sujet, d'ailleurs, vous voyez bien que je ne vous apportais aucune recette je ne m'y suis pas risquée.
Ouais.
Parce que c'est pas si simple. En général, on conseille d'utiliser 3 cuillères à soupe d'aquafaba pour remplacer un œuf. Mais ceci fonctionne quand on veut obtenir une texture de mousse. Mmh. Si on veut travailler ça, par exemple, pour un autre type de texture, type un gâteau qui requierrait des blancs d'œufs, alors c'est une autre paire de manches. Donc en fait, il faut beaucoup se documenter, il faut se fader à peu près 3 ouvrages et 4 blogs. Oui, allez-y, Arnaud.
Juste me permettre un petit truc, c'est que quand c'est un jus de cuisson qui est industriel, qui a été fait par... une conserverie, donc les deux facteurs sur lesquels il faut faire un peu attention, c'est l'assaisonnement. Ouais. Parce que souvent, ces pois chiches sont assaisonnés, donc bien regarder.
On prend pas des pois chiches au bouillon de.
Non, mais même quelquefois, c'est juste du sel. Ouais, et le deuxième truc, c'est que si on veut un petit peu concentrer les propriétés, on peut faire réduire un peu ce jus-là.
Ah, d'accord. On le fait réduire un peu.
Je conseille de lui faire perdre un peu d'eau. Et quand on en a besoin pour
renforcer les propriétés, pour texturer ce jus de cuisson.
Donc voilà, mon conseil, ne vous lancez pas comme ça à l'aveugle sous peine de tout simplement d'essuyer de sérieux échecs.
Oui,
mais il y a quand même pas mal de docs à lire sur le sujet avant de.
On n'en est jamais mort.
Non.
Il faut expérimenter
en cuisine. Moi, je suis pour le fait d'essayer des trucs, vraiment.
Est-ce que vous avez essayé, Tanay, vous, Arnaud Daguin?
Moi, ça fait un moment que j'utilise ça.
Non, c'est vrai?
Oui, et puis l'eau des graines de lin aussi, c'est absolument extraordinaire. Il y a un engouement pour la graine de quia maintenant aussi, qui a des vertus
de
ce type-là. Non, ça fait un moment que... Mais c'est vrai que ça nécessite un petit apprentissage. Il faut faire la connaissance du produit, tout simplement.
Et Pierre-Brice Lebrun, l'eau de cuisson des pois chiches?
L'eau de cuisson des pois chiches, à part la mayonnaise, parce que les meringues, c'est trop compliqué pour moi, je me pervite, mais voilà. Ouais. Non, je fais des sauces.
Et ce gâteau au chocolat que vous nous avez apporté?
Alors, gâteau au chocolat, c'est avec des pois chiches. Pas de la farine, du pois chiche, des pois chiches, des œufs, du cacao amer.
Ah oui, donc pas d'eau de pois chiche.
Non, pas d'eau de pois chiche. Non.
Attendez, c'est un vrai gâteau au chocolat.
C'est un vrai gâteau au chocolat.
Des pois chiches entiers à l'intérieur.
C'est ça. Alors ils ont été écrasés, donc vous pouvez y aller tranquille. là. Donc du cacao amer, de la...
Mais c'est super bon.
Eh ben c'est pas mal du tout, ouais, c'est ça.
Délicieux.
En plus, il y a un petit côté salé, caramel salé, je trouve. Un petit,
j'adore.
Petit,
ouais. Ah, avec farine de blé, c'est la farine de blé que vous avez utilisée ou...
Ah non, j'ai pas mis de farine.
Pas de farine
enfin,
du
y a
tout.
Juste une farine, il y a un peu de farine de pois chiche, il y a une cuillère à soupe, de petite cuillère à soupe de farine de pois chiche pour lier un petit peu.
Cacao. Pois chiche écrasé, cuit, écrasé.
Voilà.
Un peu de matière grasse.
Non. Je mets pas de matière grasse. Non.
C'est délicieux.
Trois œufs, ouais, c'est bien.
Mais d'où vient ce moelleux alors? Parce qu'on a vraiment l'impression que ça apporte par le beurre.
Je pense que c'est des pois chiches. Je pense que c'est des pois chiches.
La bouche pleine, qu'en pensez-vous de ce gâteau chocolat
bon.
Pois chiche?
Très très bon, je m'attendais pas à ça. Sans farine, c'est impressionnant.
Ouais. Franchement, étonnant.
Joli dosage de sucre. Très, très
oui,
bien.
Picassonnage, très bon sucre. Voilà.
Juste avant de se quitter, on commettrait évidemment un énorme sacrilège si on n'évoquait pas quelques petites recettes à base de pois chiches ou de farine de pois chiches, made in France, française, car il y a une tradition du pois chiche évidemment. Si on se tourne du côté de la Côte d'Azur et de Nice, on peut y trouver la fameuse
soca. Bah oui.
De quoi s'agit-il?
Bah, c'est toujours le même principe, de la farine de pois chiche, de l'eau et de l'huile d'olive.
Oui.
Et on va avoir à Palerme des panelles dans lesquelles on rajoute du persil en fait.
Absolument.
Les panisses de Marseille qu'on connaît bien, qui aurait une origine ligure, donc oui. L'Italie est vraiment juste à côté. La soca niçoise, qu'on peut cuire soit au four à pain, soit au feu de bois, tout simplement.
Là, il s'agit d'une galette assez fine. Hein.
Une galette assez fine.
C'est ouais, juste farine de pois chiche, de l'eau, juste. Un peu de sel.
Voilà, alors que les panisses, c'est déjà plus épais, plus moelleux. On en achète encore un peu à Marseille, dans des cornets. Voilà, c'est tout gras, tout bon, tout... Voilà. À Toulon, on appelle ça cade. Et
oui,
il semblerait que ça vienne de caldo chaud, tout simplement.
C'est ça.
Ce serait l'idée.
La cade, c'est plus fin ou plus épais?
A priori, plus fin.
C'est plus fin, plus croustillant.
Oui, plus fin et plus croustillant. Alors, on a l'ansardaigne, la faina, qu'on retrouve en Uruguay, en Argentine.
Et que faites-vous? Vous avez fait un oubli.
Qu'est-ce que j'ai oublié?
Non, mais il paraît que la soca serait une cousine très très proche, en fait, d'une spécialité ligure de Gênes, qui est la farinata.
Oui, tout à fait, la farinata, qui se fait à peu près de la même façon aussi, oui. En fait, ça change de nom. Alors, ce qui est rigolo, par contre, c'est que chacun de ces produits a comme légende d'origine, la même histoire, mais à des endroits différents. Donc, un siège, il y a un incendie, il y a la guerre, tout ça, ils se retrouvent bloqués, ils prennent ce qu'ils ont et ils font que ça parce que c'est tout ce qu'ils ont sous la main. Et on retrouve cette histoire dans tous les ports de la Méditerranée.
C'est l'histoire des brouets.
Oui, c'est ça, oui.
Et en fait, l'histoire des brouets, c'est une histoire de nécessité.
C'est ça, voilà.
Qu'entendez-vous par les brouets, les soupes
caustiques? Ce dont on parle là aujourd'hui, c'est typiquement un brouet, c'est-à-dire un mélange de liquide et de farine de quelque chose.
Et ce que l'on sait moins, c'est que le pois chiche, qu'on a l'habitude d'identifier à la culture méditerranéenne, a voyagé dans le monde entier, notamment très tôt avec les explorateurs espagnols, portugais, et du coup, on mange du pois chiche depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Inde. Il y en a un peu partout, quand même, du pois chiche. D'ailleurs, vous me disiez, en préparant cette émission, Jérôme Gussema, j'avoue que je ne connaissais pas cette réalité agricole. Le grand pays, ou la grande zone géographique pour la culture du pois chiche en particulier, mais de toutes les légumineuses en général, c'est...
Le Canada.
Incroyable.
Tout à fait, François.
Ils se sont lancés dans cette...
Pour la petite histoire, le Canada s'est lancé quasiment en même temps que mon père, à faire du pois chiche. Sauf que bon, les proportions ont été exponentielles, puisqu'ils sont devenus très rapidement les premiers producteurs de cette légumineuse.
Dans le monde.
Dans le monde, tout à fait. Donc, ils alimentent toute l'Europe. Alors, ils ont aujourd'hui d'autres concurrents, comme l'Inde, l'Australie, donc il s'en fait un petit peu partout maintenant du pois chiche, mais c'est vrai que le Canada a encore la même mise sur ce marché.
Et 40%, ce qui peut faire éventuellement un peu peur, là il y a Arnaud Daguin qui est en train de s'étrangler.
Non,
40%, j'ai vu une information, 40% de toutes les légumineuses vendues dans le monde proviennent du Canada, je vous laisse imaginer la nature des cultures.
Et 60% des graines de moutarde.
Oui, là, et des moutardes aussi, mais c'est vrai que haricots rouges, pois chiches, lentilles, tout cela, 40% de ce que l'on consomme partout dans le monde, ça vient quand même du Canada. Ça.
Ils ont tout compris.
Essor agricole en très très peu d'années finalement.
Ils ont de la place.
Ils ont de la place.
D'ailleurs, la recette de gâteau au chocolat, elle vient du Canada, de Saskatoon, Saskatchewan.
Voilà.
Et ils mettent dedans des petites baies qui ressemblent à toutes les baies, les érelles, les machins, donc ils le font avec des petites baies.
Ben, on va déguster ça dans un instant.
Et ben, avec plaisir.
Et merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Brice Lebrun, un petit mot de votre dernier bébé, petit traité du camembert, toujours dans cette collection, vous avez écrit la frite, la boulette, enfin pardon, pas la frite mais la pomme de terre.
Et la frite, c'était le même.
Voilà, exactement, la boulette mais également le pois chiche, là il y a le camembert
qui vient de sortir il y a quelques jours, oui, pour défendre le lait cru.
Co-écrit avec Agnès Donnet, c'est ça?
Voilà, qui a fait les illustrations.
Édition, ah oui, qui a fait les illustrations.
Qui a fait les illustrations, oui.
Édition Le Sureau. Jérôme Gussemas, merci beaucoup.
Merci François.
Et
très heureux d'avoir été parmi vous.
Continuez à cultiver ce pois chiche. Bravo pour vos produits dérivés, enfin les conserves que vous faites avec.
On essaye.
Très bien, merci beaucoup. À dimanche prochain, merci Elvira.
Merci.
Au revoir,
bon
à plus tard.
Bon dimanche à tous.
Et à dimanche prochain, si vous avez encore faim.